Alors, quand j'ai lu ce texte pour la prédication, j'ai pensé à deux choses. Tout d'abord à la vie qui est bien précaire. Il y a eu le Covid, et puis un certain nombre d'entre nous ont vécu des deuils récents. Ça nous montre cette réalité. La vie est précaire, et comme l'Ecclésiaste, je pourrais dire dans un langage un peu familier, à quoi ça rime tout ça, tout ce qu'on essaye de construire dans notre vie. Et puis, j'ai pensé à l'Ukraine, avec ce blé et ses récoltes. L'Ukraine considérée comme le grenier à grains de l'Europe. Et en fait, avant l'agression de Poutine sur ce pays, ça fait maintenant plus de 5 mois, eh bien, je ne savais pas que l'Ukraine fournissait autant de blés à d'autant nombreux pays, à autant de pays dans le monde, et même de la moutarde et du tournesol. Voilà, on apprend des choses, ça met en évidence ces choses-là. Et du coup, j'ai été voir et j'ai appris que là-bas, il y avait une terre particulièrement riche qui n'est pas encore abîmée par les pesticides et la culture intensive. Malheureusement, ça vient. Et le climat est très favorable. Du coup, le rendement des terres est très élevé. Alors, la guerre nous a appris cette dépendance des uns envers les autres. Nous l'avons déjà expérimenté au moment du Covid où tous les pays se sont refermés. Et puis aujourd'hui, eh bien, ça touche plein de pays dans le monde et on parle de pays qui vont voir la famine arriver. Ceux qui dépendent beaucoup aussi de l'aide internationale. Je disais quelque chose sur le Soudan, par exemple. Le blocage du blé ukrainien fait redouter évidemment l'accentuation du déséquilibre mondial. Et en fait, quand j' ai regardé un peu les chiffres, j'ai constaté que la faim avait reculé dans le monde jusqu'à peu près aux années 2014, 2015, 2016. Et après, eh bien, ça recommence, ça remonte en flèche. Aujourd'hui, il y aurait 1 personne sur 10 en malnutrition dans le monde. Évidemment, ce n'est pas tellement chez nous qu'on voit ces problèmes de malnutrition. Il y a des gros déséquilibres, encore une fois, selon les pays. Alors je me disais, finalement, être dépendants les uns des autres, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. L'économie dans le monde, depuis très 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 longtemps, a toujours été une manière d'être en relation sans se faire la guerre. Et en fait, je constate que l'Ukraine, ne pouvant plus honorer cet échange de biens, eh bien, la plupart des autres pays ont intérêt à l'aider. Bien sûr, c'est jamais gratuit. Mais avec les différents scandales alimentaires, par exemple, on a pris conscience de la manière dont les biens circulent dans le monde entier pour être produits, fabriqués, mis en empaquetage et ensuite vendus. Et on a vu que quand il survient une crise alimentaire, je me souviens de la vache folle, je me souviens de... on est tous concernés. Parce que ça va partout. Dans des pays, on n'aurait pas imaginé que ça passe par l'Irlande ou par autre chose. Alors je me suis dit que les discours politiques qui prônent le repli sur soi et l'autonomie des pays sont des discours mensongers. On ne peut plus revenir en arrière et que chacun soit autosuffisant. C'est plus possible. Et évidemment, le Royaume-Uni qui a voulu sortir de l'Europe en sait aussi quelque chose. Et je pourrais dire qu'on est condamné à avancer ensemble, même si on n'est pas tellement d'accord avec les autres pays qui ont parfois des valeurs très différentes. On commence à s'en rendre compte. Mais finalement, c'est intéressant du point de vue de l'Évangile. C'est une façon de prendre en compte l'existence de l'autre. Je ne peux pas juste éradiquer l'autre d'un revers de main. Il est là, il existe, et j'en ai besoin sur la planète, parce que j'ai besoin de ce qu'il me produit, de ce qu'il me donne, et lui, il a besoin aussi de ce que j'ai à lui vendre, parce que donner, c'est une illusion. Alors du coup, j'aimerais continuer cette réflexion avec 3 questions un peu plus personnelles qui nous interrogent à travers le texte que nous avons lu. Tout d'abord, une question qu'on ne se pose peut-être pas vraiment, quels sont mes biens ? Mes biens à moi. Ça, c'est la première question. Ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Quels sont mes choix? Parce que parfois, on fait des choses et en fait, on n'est pas conscient des choix que nous faisons. Mais tout a un choix. Tout est sous-tendu par des choix. Et puis, la troisième question, c'est où est-ce que je mets la valeur de ma vie? Et là, c'est un petit peu la question que Jésus pose aussi à la fin dans ce texte. Alors, pour répondre à la première question, il y a plusieurs sortes de biens. Il y a ceux qui m'appartiennent en propre, ou bien ceux dont je peux disposer, c'est-à-dire mon logement, ma nourriture, mon activité professionnelle ou bénévole, et puis des choses très pratiques, mon téléphone portable, mon ordinateur, mes livres, ma télé, mes loisirs, etc. Et puis, je peux aussi avoir évidemment beaucoup plus. Je peux avoir une résidence secondaire, je peux avoir des biens en plus de ce qui est important pour moi pour vivre. Et puis, d'autres biens sont à ma disposition. Les biens publics, par exemple. Le fait de pouvoir envoyer mes enfants à l'école, d'aller à l'hôpital pour me faire soigner, le fait d'accéder à la justice, même si elle est parfois bien imparfaite, le fait de bénéficier des transports qui fonctionnent. Et puis, il y a des biens qui sont d'un autre ordre, mais qui existent. Par exemple, habiter dans un pays libre et en paix. La paix est un bien. Le pays libre me procure un certain nombre de droits. Par exemple, aujourd'hui, on peut venir au culte sans peur d'être arrêté, sans peur de se faire tuer. Voilà, on peut pratiquer notre religion de façon libre. Et puis on peut se déplacer en dehors des confinements du Covid, on peut se déplacer comme bon nous semble. Le Covid nous a appris quel bien c'était pour nous. Et puis il y a d'autres biens qui sont absolument indispensables à notre vie, auxquels on ne pense pas forcément, mais c'est quand ils manquent qu'on se rend compte à quel point ce sont des biens. Ce sont les relations et les interactions avec les autres. Alors notre famille, bien sûr, si on n'avait pas eu de parents ou de personnes qui s'occupaient de nous quand on était bébé, on ne pourrait pas vivre. Donc la relation aux autres, notre vie en dépend au début. Notre famille, nos amis, différents cercles de connaissances. Regardons ce qui reste à la fin d'une vie. Quand quelqu'un part, on se dit, mais quel bon moment on a passé ensemble. Voilà les dernières paroles qu'on a échangées. Voilà ces moments que personne ne nous reprendra. Quel que soit le travail, la famille, les amis, les loisirs, quand une relation se passe bien, on en bénéficie, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Et c'est quand ça ne se passe pas bien que ça devient l'enfer. Et là, on se dit, c'est pas normal que ça ne se passe pas bien. Mais on pourrait se dire, c'est finalement le miracle quand la relation se passe bien. Mon mari aime bien dire que la relation de couple est un miracle, tous les jours. Et il faut s'en préoccuper et la nourrir, cette relation. Alors, la deuxième question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que j'en fais de mes biens? Quels sont mes choix? La question de cet homme riche, la question que Jésus pose vis-à-vis de cet homme riche, cet homme a plein de récoltes, la terre a beaucoup donné, et il ne sait pas quoi faire de sa récolte. Alors, il veut détruire ses greniers pour en construire de nouveaux. Alors, entre parenthèses, Jésus, t'es pas très très logique, qu'est-ce qu'il va faire de sa récolte pendant qu'il détruira le premier grenier? Mais bon, c'est un détail. Et dans cette parabole, il n'envisage pas de la vendre, ça m'a étonnée aussi. Et il préfère amasser, garder, il dit, j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et là, on entend, tiens, il n'y a pas que le blé, il y a aussi les biens, tout ce qu'il possède. Donc non seulement il met son blé qui va être une manière de vivre et de pouvoir peut-être faire vivre sa famille, mais il y a aussi ce qu'il possède. Et c'est là où Jésus va insister sur la possession. Et là, le choix de cet homme lui permet d'avoir une vie finalement de plaisir, sans travailler ni rien faire pour les autres. Repose-toi, mange, fais bonbonce. Alors, on nous dit dans ce texte que cette attitude n'est pas approuvée par Jésus, non pas dans une histoire de morale, mais plutôt parce que ça bloque quelque chose. Ça bloque la vie, finalement. La vie, c'est quoi? C'est toujours recevoir de l'autre et donner. On est tout le temps dans ce va-et-vient, que ce soit dans des relations amicales, que ce soit pour le travail, que ce soit dans les loisirs, on est toujours dans ce mouvement. Et en fait, là, Jésus dit, il y a un problème. Si vous bloquez ce mouvement, il y a un problème. Alors, en lisant ce texte, je me suis dit, il y a quand même une question qui est légitime. Parce qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux et c'est important de mettre de côté aussi pour ne pas peser sur les générations de nos enfants ou de la société. On a la chance en France d'avoir une retraite, mais il y a bien des pays qui n'en ont pas. Alors oui, le tout, c'est dans l'équilibre à trouver. Et c'est à nous de réfléchir à la façon dont nous considérons nos richesses, nos biens, notre argent, même si nous en avons peu. Et c'est je vous invite en fait, peut-être que ça sera dimanche prochain, j'ai pas regardé, mais peut-être pas. Je vous invite en tout cas chez vous, cette semaine, à lire la suite du texte. Parce que c'est ce texte qui nous dit, ne vous souciez pas du lendemain. Parce que si vous cherchez le royaume, ça vous sera donné en plus. Et pour l'avoir vécu, je peux vraiment vous dire que c'est vrai. Et puis j'aimerais vous citer l'exemple d'une dame, une amie qui était dans une situation assez précaire quand même. Elle avait un travail qui gagnait vraiment pas beaucoup, elle était intérimaire. Son mari, c'était pareil, intérimaire aussi, et ils vivaient à 5 avec leurs 3 ados dans 2 pièces. C'était pas beaucoup. Et en fait, elle avait toujours un petit peu d'argent à donner à quelqu'un qui mendiait dans la rue, et quand je lui faisais remarquer cela, elle me disait « Mais tu sais, la vie est un relais. Ce que je donne là, ben, la personne, elle en a besoin, et peut-être que quand la personne pourra, eh ben, elle donnera à quelqu'un d'autre. » Et voilà, c'est elle, cette amie finalement, qui me disait « Oui, moi je dépends des autres, j'ai reçu aussi des autres, mais quand je peux, eh bien, je donne. » Est-ce que je mets ma vie dans mes biens, dans ma volonté de ne dépendre de personne, ou bien est-ce que la valeur de ma vie se réduit à mes richesses? Alors Jésus nous dit, attention, vous pouvez mourir demain. C'est pas drôle de se dire ça, et heureusement qu'on se le dit pas tous les jours, parce que sinon on ferait pas de projet. Mais de temps en temps, c'est bien de se poser la question, qu'est-ce que je risque de regretter si je dois mourir demain? Quelque chose que je n'ai pas fait, quelque chose que je n'ai pas vécu, une relation peut-être que je n'ai pas apaisée. Et qu'est-ce que si je devais mourir demain, si je le sais, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Donc ce n'est pas une question à se poser tous les jours, mais quand même, de temps en temps, ça fait du bien de se dire où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui va faire la richesse de ma vie? Parce que bien sûr, la richesse dont parle Jésus devant Dieu, c'est une richesse qui est une richesse qu'on se construit pour toujours, bien au-delà de la mort. Alors, je vous ai annoncé la semaine dernière que j'avais cette semaine quelques jours de retraite spirituelle dans un endroit qui s'appelle Mazy, le Carmel de la Paix à Mazy, à côté de Cluny, pas loin de Thésée, dans la même optique œcuménique, mais c'est quand même des sœurs catholiques. C'est d'ailleurs une des sœurs qui m'a confectionné ma robe blanche il y a 18 ans, quand j'ai commencé mon ministère. Alors là-bas, on est en silence. Qu'est-ce que c'est être en silence ? C'est tout d'abord se reconnecter avec soi-même, avec sa propre humanité. Alors, comment vivre sans parler? La parole est ce qui nous humanise, c'est ce qui est donné à l'homme pour être des humains. Oui, mais quand on ne parle pas pour les choses de la vie quotidienne, eh bien, cela permet de faire une place à une parole qui donne sens à la vie. Ça permet de décanter un peu tout ce qui est au-dessus, tous les soucis, tous les stress, tout ça. Puis, quand on a un peu décanté tout ça, on peut faire de la place. Et il y a différents offices dans la journée qui permettent d'entendre autrement les paroles des prières, des psaumes, de la Bible. Et il y a des paroles comme ça qui rentrent en vous plus facilement. On fait nos repas en silence aussi. Ça, c'est difficile, hein ? Parce que le repas, c'est quand même le lieu convivial par excellence, surtout en France. Eh bien, là maintenant, je suis un petit peu habituée, donc je sais le registre à prendre, mais au début, je me suis dit, c'est une bonne manière de se rendre compte de comment on utilise notre parole. Finalement, quand j'ai envie de parler à l'autre, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Est-ce que j'ai envie de parler de moi ? Est-ce que je préfère lui poser des questions sur lui, l'écouter ? En fait, devant le silence, j'apprends à me retrouver avec moi-même. Et cela permet déjà de faire de soi-même une bonne compagnie. Et c'est important de cultiver ça, parce que dans l'âge qui avance, on se rend compte que c'est bien d'être seul avec soi-même quand même. Et puis, cela permet de vivre pleinement le temps présent. C'est-à-dire que les gestes et les signes qu'on fait, parce que passe-moi le sel ou passe-moi de l'eau ou tout ça, on ne le dit pas. Donc, on va faire des gestes et puis on va attraper du regard l'autre. Et du coup, on se comprend sans problème, sans aucun problème. Et chaque geste, chaque signe prend une importance importante et du coup, il n'y a que ça qui compte et c'est très apaisant. Et c'est ce regard finalement aussi qui nous humanise. Alors évidemment, quand je suis rentrée, je peux vous dire que j'ai pris le train, j'ai pris le métro, je suis arrivée ici. Et qu'est-ce que je vois ? Alors bien sûr, mon regard a changé avec ces quelques jours. Qu'est-ce que je vois ? Eh bien, je vois des zombies. Vraiment, textuellement des zombies. C'est-à-dire que je vois des gens, mais ça vous le savez, et moi j'en suis aussi, hein. Comme ça, je vais mimer, c'est trop drôle, hein. Voilà. Ah, là il y a quelque chose, mais c'est épouvantable, épouvantable. Donc je me suis vue en même temps, si vous voulez, à essayer de... Enfin bon, donc je me suis vue et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, pour notre corps et pour la relation aux autres ? Quand on veut s'adresser à quelqu'un dans la rue, quand on arrive à accrocher le regard, on lui parle, mais il ne vous entend pas. Il dit « Qu'est-ce que vous dites ?» Il faut enlever les cotons dans les... Enfin, ces trucs extraordinaires que j'ai utilisés pour faire les cultes. Là, c'était incroyable, ces petits machins dans les oreilles. Mais on est dans un autre monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour notre vie, pour notre humanité, si on perd cette relation à l'autre ? On a des relations qu'avec des machines. Essayez de compter dans votre journée le nombre de fois où vous êtes en relation avec des machines, que ce soit les machines automatiques pour prendre de l'argent, pour aller faire des courses, pour... C'est fou. Mais dans la rue, il y a des gens, il y a des vrais gens à qui on peut parler. Et des fois, ça fait du bien quand même, d'avoir, voilà, quelque chose d'assez léger avec les autres. Donc quand vous êtes sur votre portable, et je me le dis à moi-même, hein, dites-vous que, ouais, c'est urgent, c'est peut-être... Il y a des urgences, on a tous... Mais il y a des fois, c'est pas urgent. Et je peux attendre d'être à la maison pour regarder ce que mon copain ou ma copine m'a dit. Et puis, je me suis dit, comment voulons-nous vivre dans ce cadre de la Terre que Dieu nous donne, qui est en danger maintenant ? Parce que même à Montrouge, il y a des oiseaux qui chantent. Est-ce que je fais attention à cela ? Il y a des fleurs qui sentent bon. Est-ce que je me penche pour les respirer ? Il y a des arbres qui essayent de pousser tant bien que mal au milieu du béton. Et je pense que faire attention à ça, c'est m'ouvrir un peu plus à ce qui me relie à moi-même. Alors oui, ce texte me fait penser que s'enrichir auprès de Dieu, eh bien, c'est nourrir notre humanité. Et essayer de garder du recul, de prendre du recul sur notre vie. Parce que nous sommes entraînés malgré tout. Il n'y a qu'à voir quand je reviens dans le métro, au début je marche lentement, puis après je marche vite comme les autres, c'est pas possible. Et puis parfois on est entraîné par nos pulsions d'avidité, d'impatience, et on ne s'en rend pas forcément compte. Oui, réfléchissons de temps en temps à la précarité de la vie, avant qu'elle nous prenne par surprise, pour vraiment être conscients de nos choix, responsables de nous-mêmes, et puis savoir où est l'essentiel qui va nourrir notre vie. J'aimais bien la phrase qu'un ami disait « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. » Alors oui, je nous souhaite, quel que soit le lieu où nous serons dans les prochaines semaines, parce qu'il y a des personnes qui reviennent, des personnes qui arrivent, des personnes qui restent là, eh bien, je vous souhaite de sentir l'ancrage de notre humanité dans nos jambes quand nous marchons déjà. Et puis la légèreté de l'amour de Dieu dans tout notre être, parce que notre Dieu est un Dieu libérateur, il nous libère de tout ce qui nous pèse. Profitons de ce repos de l'été. Amen.